manquez pas le spectacle lancement de l'album au Scanner le vendredi 6 mai prochain dès 21h. Les billets sont en vente dès maintenant pour Gus & Gohorn en spectacle au Scanner le 6 mai prochain. Une présentation de Shiz 94.3, Secret City Records et Blue Sky Stern Black.
Préambule, c'est plein de plus. Un tremplin vers le monde de la com pour les étudiants de l'Université Laval, une agence de publicité créative et bien plus encore. Puis en plus, on est parrainé par Cossette. Pour un petit plus dans vos projets, visitez notre site web au préambulecommunication.ca.
Bordel en réveillard, Zen Charles. Boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez
c'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur shiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute.
Bonjour, ici Cœur de Pirate et vous écoutez Chérie J'arrive sur Shiz.
Il est 4h.
Jeudi tout le monde, on est le 21 avril et vous écoutez l'émission Chérie J'arrive sur les ondes de Shiz 94.3. On commence cette émission avec Catherine du duo Brunswick qui vont être à l'Antibar ce soir, aussi avec Pop-Pierre, manquez pas ça du côté justement de l'Anti. On va parler avec Émilie Rioux à 16h15 aujourd'hui, elle nous parle des demi-finales des Francouvertes qui ont eu lieu lundi, mardi et mercredi. On sait maintenant le top 3 des finalistes de la 26e édition des Francouvertes, elle nous en parle à 16h15. À 16h30, je vous parle de nouvelles de musique en général, comme ça, les spectacles à voir ce soir. À 16h45, je parle à Nadia Gérard-Edaya qui va me parler de la pièce Disgrâce à premier acte. À 17h, j'ai Alex Tremblay-Lamarche qui vient me parler littérature, encore une fois, avec Histoire de lire sa chronique hebdomadaire. Alors voilà, c'est Chérie J'arrive du jeudi 21 avril qui commence maintenant.
Sur le vol, la nuit ne m'attend pas. J'essaierai de combler le sommeil de Rome à Perugia. Même le froid qui descend des Abruzzes ne pourra m'arrêter.
Les décors se changent, les journées vont et viennent.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Giovanni, c'est du duo Brunswick qui sont signés chez Lisbon Lux Record. Ils sont aussi en spectacle ce soir à l'Antibar et Spectacle. Et j'ai la chance de parler avec Catherine Coutu et Bertrand Pouillet pour ce duo Brunswick. Salut vous deux, ça va bien?
Allô, ça va très bien, toi?
Oui, ça va super bien. On se parle parce que vous êtes en ville. Vous venez faire votre spectacle ce soir à Québec. Un genre de pré-lancement parce que vendredi prochain, il y aura votre nouvel album Entre mes insomnies qui va sortir. Donc ce soir, on s'attend justement à avoir beaucoup de chansons de cet album-là.
Ouais, quand même. Il y a des chansons qu'on fait live pour la première fois. Mm-hmm. Une espèce de petit best-of de notre album, là.
Ouais. Puis, justement, de cet album-là, je suppose que vous avez travaillé dessus. Est-ce que c'était durant la pandémie, avant la pandémie? C'était quand?
On avait commencé un petit peu avant la pandémie à composer, mais c'était vraiment tout doucement. Puis c'est un peu au début de la pandémie qu'on s'est mis plus sérieusement.
Ouais.
C'est ça. C'est surtout un album écrit pendant la pandémie.
Mm-hmm. C'est drôle parce qu'avant la pandémie même, on a composé une chanson qui s'appelle « Soir » qui est sur l'amour solitaire. Mm-hmm. Puis on a compris tout le sens de cette chanson pendant un an.
Justement, en 2019, avant la pandémie, vous aviez sorti votre premier album « Nuit parallèle » et maintenant, c'est un nouvel album qui va sortir vendredi prochain « Entre mes insomnies ». Donc, vous aimez ça quand même, parler de ce qui est de la nuit, de dormir et tout ça. C'est un sujet que vous aimez mettre en musique?
Mais la vérité, là, c'est qu'on est des insomniaques pour vrai, mais pas pareil. Moi, j'ai la misère à m'endormir. Bertrand, il se réveille à 5h du matin, c'est ça?
C'est ça. Mais c'est aussi un peu, on a une musique qui est quand même assez planante, on va dire, entre guillemets, ish. Donc on trouvait qu'il y avait un mood qui fonctionne bien avec la nuit, avec quelque chose de plus calme. Pas forcément le party, mais plus genre chiller la nuit, être relax.
Ben justement, vous parlez d'insomnie, vous parlez de la nuit, de ce qui est en lien avec le sommeil, mais vous parlez aussi des difficultés amoureuses. C'est un sujet que vous avez voulu mettre au centre de ce prochain album-là?
Ben en fait, pendant l'écriture de l'album, les deux, on a vécu des ruptures amoureuses, pas en même temps, mais à quelques mois d'écart. Fait que nécessairement, contrairement à des mêmes qui écrivent des tunes vraiment fictionnelles, nous, on y parle de ce qu'on vit, en fait, là, de notre quotidien. Fait que ça, on a vécu ça les deux. Fait que c'est sûr que ça paraît dans nos tunes.
Donc, ce soir, on va pouvoir, comme je le disais, entendre pas mal de chansons de Entre mes insomnies. Mais justement, votre set, il va ressembler à quoi? Est-ce qu'il va y avoir aussi de vos autres chansons que vous avez faites avant?
Ben, on va dire qu'il y a peut-être un 30-40% de Nuit plurielle, nos anciennes tunes.
Ouais.
Et puis le reste, c'est des nouvelles. Dont les trois qui sont sortis déjà en single avant l'album. Et une couple de jamais entendu.
Oui, jamais joué. Ça va être des grandes surprises ce soir.
On donne rendez-vous au public à l'Antibar pour voir Brunswick. Il y a aussi Pop-Pierre qui va être sur scène. Oui. Vous, Pop-Pierre, est-ce que vous les connaissez déjà? C'est quoi votre lien avec Pop-Pierre?
On les connaît très bien. Ils sont sur Lisbon Lux aussi. On a souvent joué ensemble. C'est des amis. Fait qu'on... On est tout le temps vraiment content de faire des shows avec eux autres. Là. C'est tout le temps cool de... Surtout de faire des shows à l'extérieur de Montréal, de se promener un peu, puis de...
Puis il y a une belle dynamique, je pense. Les deux bandes ensemble pour le public, ça monte crescendo pour passer vraiment une belle soirée à faire la fête un peu.
Vous parliez des spectacles qui s'en viennent. Ben, vous en avez plusieurs quand même sur la route. Il va y avoir le 22 prochain. Ça va être à la Malbaie, à l'auberge de jeunesse.
Malheureusement, celui-là, il a été annulé.
Oups.
Ouais, le staff a eu la
COVID. pas de stress. Il va y avoir les autres au théâtre Fermont le samedi 30 avril et le jeudi 12 mai au Osgain Plaza. Donc, justement, ça, je suppose que vous êtes content de pouvoir recommencer à faire ces spectacles-là?
Mais on s'est tellement ennuyés de faire des shows. Pour vrai, ça nous a permis de faire l'écriture. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Mais ouais, on a d'autres shows cet été aussi qui s'en viennent. Oh, pardon. Qui s'en viennent. Puis, ah non, mais là, c'est tellement cool de faire du nouveau matériel comme ça. Puis, puis tu sais, on a quand même. Je pense que dans notre nouvel album, c'est un petit peu plus beaté que Nu Pluriel. Tu sais, on a comme. Je sais pas. J'ai vraiment hâte de les essayer ce soir, en tout cas. Je sais pas. Est-ce que tu vas venir à notre show?
Malheureusement, il y a comme 4 shows en même temps, donc j'étais déjà double booké même, donc je pourrais pas être là, mais j'invite les gens déjà à y aller. C'est à l'Antibar, puis ça vaut la peine. Honnêtement, Brunswick puis Paupières, c'est deux groupes qui valent la peine. Donc ceux qui nous écoutent, réservez vos billets, ça vaut la peine.
Oui, merci. Et puis, je pense que oui.
Ouais. Ils pourront te dire à quel point tu n'as pas choisi le meilleur show de la soirée.
Ouais, c'est ça.
Exact. Tout à fait. Ben, on se reprendra pour une autre fois parce que ben, je suis sûr, comme vous l'avez dit, il va y avoir d'autres spectacles qui s'en viennent. Donc, on va suivre ça de très près et on va suivre aussi la sortie de l'album qui va être vendredi prochain, le 29 avril. Ça s'appelle Entre mes insomnies. Et si vous voulez voir ça en primeur, ben, c'est ce soir à l'Antibar. Donc, je vous remercie, Catherine et Bertrand de Brunswick. Merci d'être passé.
Et merci
ça
beaucoup.
Ça fait plaisir, toujours le fun de venir à Québec.
Yes.
Merci beaucoup.
Ciao.
Bye-bye.
Nous, on va y aller en musique maintenant avec une nouvelle d'un artiste de Québec qui s'appelle Kevin. Ça s'appelle Dust. On y va. Au retour, on continue à chercher. J'arrive.
Pride and turn it into light. Take me where the sun is always done. Places where love's nowhere to be found. Tell them I came for a vision, then I'll get back to my spaceship. God, you're paving the way, so they could taste of your blessings. I cannot take you for granted. You might come back like a bandit and wipe us away in a minute. Just like us when you made me.
Ooh, and I'm calling of your grace right now. All I wish for is change. Just could break all these chains.
In a world where they don't want us to be free.
Make me do this.
Cause nobody else will do it just like me.
We can't control, but it's better so, cause in the end we know where we'll go. And I won't sell my soul for some temporary things I can't take home. Yeah. And I'm calling your name right now. Feel the horrors of your grace right now. All I wish for is change. Just come break all these chains.
Retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chérie 94.3. Il est 16h15 et comme à chaque jeudi, c'est la chronique Coup de théâtre avec Émilie Rioux. Tu es en studio aujourd'hui, Émilie,
ouais.
Et tu viens me parler, non pas de théâtre, mais d'un autre événement qui a beaucoup de coups de théâtre. C'est les Francouvertes.
Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un événement qui a toujours plein de rebondissements,
ouais.
Les Francouvertes. Il y a quelques années, c'est des rebondissements de type « On a la COVID, on fera pas de show ». Mais là, cette année, c'est des rebondissements normaux de Francouvertes. Et j'aime bien dire d'entrée de jeu que la chronique coup de théâtre, ben c'est principalement pour pouvoir dire coup de théâtre, je ne vous parlerai pas de théâtre.
Et voilà.
Cela dit, je vais en voir ce soir, c'est la grande première d'Un ennemi du peuple au théâtre du Trident, première de presse ce soir. Alors, j'y serai pour vous en parler plus adéquatement par la suite. Cela dit, revenons à notre mouton principal, c'est-à-dire la 26e édition des Francouvertes,
yes,
qui maintenant peut nous dévoiler ses finalistes. Après vraiment une longue épopée, comme à chaque année, les Francouvertes nous ont donné plusieurs lundis soirs avec trois groupes, chaque lundi soir au Lion d'Or à Montréal. C'est un concours pour les gens qui ne le connaissent pas, qui sert à faire connaître la relève de la musique francophone, mm-hmm, du Québec ou de l'Amérique francophone en général, mais on se, ouais, cachera pas qu'il y a beaucoup de monde de Montréal qui participe à ce concours-là, parce que ça se passe les lundis soirs au Lion d'Or.
Ouais. Hein?
Donc, sur la rue Ontario, dans le quartier central, dans le centre-ville de Montréal.
Cette année, il y a aussi eu une petite nouveauté. Oui, Francouverte, oui, francophonie, mais on a laissé la place aux personnes des Premières Nations. On leur a permis, justement, de, ouais, chanter en leur langue. Il y a eu une petite problématique aussi avec Samiane, pas en lien avec les Francouvertes, mais à quel point est-ce que le français est plus prioritaire que les langues des Premières Nations?
Effectivement.
Un enjeu qu'on a décidé de clairer aux, ouais, Francouvertes, puis de dire tout le monde est ensemble.
Tout à fait. C'était de plus en plus présent avec des artistes comme Canen, notamment, qui s'était rendu en demi-finale, ouais, en 2020, en intégrant quand même des langues des Premières Nations, mm-hmm, dans ses chansons en français. Et d'emblée, il faut savoir que les Francouvertes, comment est-ce qu'on sait que c'est bel et bien des chansons en français? Parce qu'il y a de plus en plus de franglais. Il y a de, okay, plus, ouais, en plus d'anglo, mm-hmm, qui est intégré au vocabulaire des hen. Mais on se comprend, à l'époque, les Dead O'Bees également, ça avait, ouais, été soulevé. Dans la musique rap, il y a énormément d'anglicisme. Mm-hmm. Ça fait partie un petit peu de cette culture-là. Et il y a certains groupes qui ont été disqualifiés parfois parce qu'il y avait trop d'anglais. Et c'est calculé, là, au mot près, il y a un pourcentage minimum de français que tu dois avoir dans tes chansons.
C'est donc, pas le 50 plus 1.
C'est ben, je t'en doute autour de ça, là, j'ai pas la donnée exacte, mais c'est calculé vraiment. Ouais. C'est passé au peigne fin. À toutes les étapes, on vérifie que les chansons contiennent un pourcentage minimum de français pour être éligible aux Francouvertes. Et cette fois-ci, ben, comme tu le mentionnes, les langues des Premières Nations comptaient un peu comme du français. C'était, ouais, un petit peu ça la manière de y arriver. Alors, c'est vraiment un beau pas de l'avant, en fait, de la part des Francouvertes. Les porte-parole cette année sont deux anciens des Francouvertes. C'est Lydia Kepinski qui était grande gagnante de son édition.
Ouais.
Même chose pour Vincent Roberge, alias Les Louanges. Donc, deux co-porte-parole qui pourront également ouvrir la soirée du 16 mai prochain, là où aura lieu la finale au Club Soda. Là, je vous ai dit un petit peu le portrait. Comment ça se passe? C'est des demi-finales, des préliminaires. Là, les demi-finales avaient lieu cette semaine, ouais, lundi, mardi, mercredi. Donc, il y avait 9 artistes en tout qui se sont produits sur ces 3 soirs-là, mm-hmm, et qui se tiraient le bord de la couverte, en quelque sorte, pour arriver au grand podium final, c'est-à-dire, ouais, se tailler une place dans le top 3 des Francouvertes très prisés. Il y a également eu une remise de prix hier. Il y a eu une première vague de partenaires qui ont remis des prix, des bourses, des sessions studio.
Mm-hmm.
Alors, il y a déjà plusieurs participants aux Francouvertes qui ont reçu des honneurs, notamment Charlotte Brousseau qui faisait partie, oui, des demi-finalistes et qui a gagné quelques prix ici et là. Malheureusement, ben, je vends le punch, elle ne fera pas partie, Charlotte Brousseau, des finalistes. J'y croyais très fort parce que j'avais envie de voir un ou une artiste de la ville de Québec,
exact,
se produire sur la scène finale. Malheureusement, ce sera un triptyque, pas 100% montréalais par contre, mais un triptyque de groupes qui vont comme suit. Alors, en troisième place, on a un certain Émile Bourgeau.
Ouais.
En deuxième place, une formation, un artiste qui s'appelle Haute, H-O-T-E. Et finalement, en première place, la formation Rose, qui se décrit comme si R-A-U espace Z-E. De manière un peu funky. Donc, c'est bien Rose et non Rosé,
c'est ça,
ou
dit
Rosie,
rosé, mais c'est vraiment Rose.
La graphie porte parfois à confusion. Mm-hmm. C'est pas évident. C'est pas évident de savoir, mais on parle vraiment de Rose. Alors, qui sont-ils que ces trois finalistes-là? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la grande finale,
ouais,
des Francouvertes cette année? Mais moi, tout d'abord, en écoutant les différents demi-finalistes, je me disais, oh, le folk est revenu à l'honneur,
ouais,
aux Francouvertes. On avait longtemps, en fait, même blâmé les Francouvertes de toujours nous amener des finales de faiseurs de chansons folk à la, mm-hmm, guitare. Tu sais, on parle de l'époque où on avait, par exemple, Philippe Braque, d'Hélène
Damien
Perron. Il y a eu Caltar Bateau, il y a eu Mon Doux Seigneur. Il, mm-hmm, y a eu, tu sais, c'était souvent des artistes très, très folk chansons, puis on voyait pas beaucoup
Pain
de décloisonnement. Pain brun. Moi, j'adore ça. Tu le sais, Félix, moi, c'est mon dada.
Mais tu sais que moi, je suis rap. Moi, j'aurais voulu que Calamine gagne contre Étienne,
oui,
Capé. C'est le faux brun qui gagne.
Ben non, voyons donc. Mais on va leur donner ça. Moi, l'année passée, de toute manière, j'ai pas suivi les Francouvertes autant que j'aurais voulu. Mm-hmm.
Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec le plus de place qu'on donne à d'autres genres musicaux. Et force est d'admettre qu'on regarde notre triptyque cette année et on se retrouve devant une finale assez disparate côté genres musicaux. Mm-hmm. Alors, sans aller dans le détail, parce qu'on pourra en reparler abondamment d'ici au 16 mai, la grande finale à laquelle j'aurai le bonheur d'assister. La troisième place est occupée par Émile Bourgeau. J'ai seulement vu un extrait de cette prestation lors des demi-finales. Lui a performé lundi soir sur la scène du Lion d'Or. C'est un genre de Marc Derry. C'est le seul qui, à mon avis, occupe la place là, de faiseur de chansons francophones. Je trouve vraiment que sa musique me fait penser à Zébulon, Marc Derry. Il y a une espèce de dégaine très désinvolte. Des chansons avec des images sympathiques, quand même assez lumineuses, un petit peu déprimées par endroits. Il est très sympathique. Il est tout jeune, mais en même temps, c'est ça, les Francouvertes. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement énormément d'expérience de scène, mais qui nous épatent quand même par leur proposition.
Comme Rosé, j'ai essayé de faire jouer sa musique. Elle n'a qu'une collaboration avec Louis Clavis.
Ça n'existe pas, à peu près pas. Fait que c'est un petit peu trippant pour nous autres parce qu'il faut rechercher énormément de chansons. Mais ça vous permet aussi par la suite de garder l'œil ouvert lorsque ces gens-là, on le souhaite, sortiront des albums.
Exact.
Donc, troisième place, Émile Bourgeau. Chanson folk francophone. C'est un gars de Montréal, je crois. Et c'est la première fois que j'entendais parler de lui dans le cadre des Francouvertes. Alors, c'est bel et bien un nouveau venu. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais il s'est démarqué en fait lors de secondaire en spectacle. Il s'est démarqué lors de petits spectacles à droite et à gauche. Le type, il a commencé à jouer de la guitare lorsqu'il avait 11 ans. Et là, il en a 18, 19, 20. Là, il est début vingtaine. Là. Il est tout jeune.
Et il y a une baby face aussi. Oui, il y a une voix quand même jeune, mais on...
Mais il y a des textes vraiment, je trouve, c'est un cliché, mais mature pour, je crois, l'expérience que je pense qu'il a côté musical. Alors, non, pour vrai, puis c'est pas s'en rappeler un certain Émile Bilodeau. Mais avec un autre type de musique complètement. Mais on se retrouve un petit peu dans les mêmes classes, j'ai l'impression. Passons à Haute, cette fois-ci, celui qui est le jambon de la sandwich dans ce grand podium, il est entre les deux.
Je sais pas si j'aimerais que tu l'appelles jambon.
Je sais pas, mais moi j'aime bien dire ça. Donc, entre deux tranches de pain brun, comme tu disais si bien. Alors, alors on a ici Haute, un projet musical d'un gars qui s'appelle Marc-André Dupol. C'est lui qui signe toutes les créations, en fin de compte. Il est originaire de Saint-Pie. Faites vos recherches. Saint-Pie. Maintenant, il est basé à Montréal. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est un projet qui se veut très prog.
Ouais.
Un petit peu de jazz sur les bars. Il y a énormément de musiciens sur scène. Tout le monde est à son gros keyboard, derrière son gros clavier, derrière son gros ampli. Il y a du gear en bon latin sur scène avec le projet de Haute. Beaucoup de trucs un peu plus numériques. On a vraiment toutes sortes de travail, de transposition du son, de pédales. Bref, on n'est pas dans la chanson. Ici, tu l'auras deviné.
Tu disais progressif, mais je dirais même pas expérimental parce que c'est des pièces qui sont toutes construites, mais c'est quand même, ça se veut il y a un genre de laisser-aller, je trouve.
Dans le bon sens du terme, tu veux dire lâcher prise peut-être plus.
Oui.
Laisser-aller, c'est un petit peu péjoratif.
Non,
mais...
c'est dans le très bon sens du terme.
Un lâcher-prise que... sur la structure de la chanson.
Exact.
On se permet parfois quelques petites explorations plus instrumentales. Ouais. Le chanteur, donc Marc-André Dupol, essaie de faire un certain traitement de sa voix, ou en tout cas, essayer de twister sa voix pour qu'elle ait une certaine résonance. Hier, il y avait entre autres Antoine Corriveau sur le panel de jury des demi-finales, puis ça me faisait un petit peu penser à ça, puis je me demandais même si je n'étais pas en train d'essayer de faire des petits clins d'œil à Antoine Corriveau en essayant de chanter un petit peu comme lui.
Ouais.
Mais je fais des blagues, évidemment, mais il y avait quelque chose quand même là, de cette parenté-là, de faire un traitement vocal un petit peu différent, de trouver une manière de chanter qui n'est pas tout à fait naturelle.
Ouais.
Maintenant, bon, est-ce que ça va être gagnant pour lui au final, tout ça, je le sais pas. Moi, personnellement, c'est même pas, c'est un projet que j'étais très surprise de voir, là, de se rendre sur le podium.
Ben, ça, c'est on parlait de revirement en début de chronique. C'est une des histoires de cette 26e édition. Puis je veux te laisser poursuivre sur Rose, mais c'est autant le palmarès des 9 premiers que ceux de la finale. C'est pas des noms qu'on aurait pu prévoir en voyant les 21 premiers.
Mais tout à fait raison. À chaque étape du concours, on sait jamais ce qui va se produire. Mmh. Et ce que tu veux dire par là pour les gens qui ont peut-être pas suivi la compétition, c'est que à la fin des préliminaires, lorsqu'on a l'identité des 9 personnes qui vont participer aux demi-finales, il se décline en palmarès. Alors, il y a quand même quelqu'un qui est au top du palmarès. Dans le cas échéant, c'était Rose, exact, qui était au numéro 1 et qui l'est toujours après les demi-finales. Alors là, on a une histoire quand même de cohérence de leurs prestations au préliminaire et au demi-finale.
Si je ne me trompe pas, Étienne Copé avait fait ça aussi.
C'est très possible. Ça arrive quand même souvent lorsqu'on a un coup de cœur de la part du jury qui se poursuit un petit peu sur toujours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout le même jury qui siège pour les préliminaires que pour les demi-finales et que pour les finales. Alors, c'est ce qui explique le phénomène que tu racontes, qu'un projet comme Haute ou même comme Émile Bourgault n'était pas nécessairement au sommet des neuf. Hein? Donc, Haute était en sixième place, Émile était au quatrième rang, alors qu'on retrouvait Michaël Richer et Xela Edna. Là, ça, c'est les neuf, là, quand on avait les neuf demi-finalistes. Le top 3 était là, puis il y a deux projets là-dedans qu'on retrouve même pas en finale. Alors, ça veut rien dire, parce qu'on change complètement l'identité des jurys. Alors, ça se peut que si tu as donné une moins bonne prestation en demi-finale, que ça passe pas le cap, finalement. Ça se peut que tu aies juste des gens qui ont une autre opinion, une autre vision de la musique.
Peut-être que la soirée, la première soirée où finalement le palmarès des neuf ont été faites, la personne qui était au jury était super contente, puis elle voulait que tout le monde soit bon, puis que tout le monde soit beau.
On sait pas ce qui se passe. Il y a vraiment. Puis peut-être qu'aussi à la finale, ça va être complètement autre chose. Je me souviens, moi, de l'année Québec, appelons-la comme ça, en 2020, où Ariane Roy avait excellé lors de sa demi-finale, avait pogné la mononucléose et était arrivée en finale avec une mononucléose. Elle avait donné une prestation un peu gênante lors de sa finale, alors qu'on la décernait déjà gagnante. Évidemment, tout peut arriver, c'est de la musique live. Il n'y a pas de montage,
mais
il n'y a
Valence
pas de triche.
Aussi quelque chose en live.
Valence avait été excellent également, ça n'enlève absolument rien à Narcisse non plus.
C'est une autre surprise.
L'autre collectif qui était là durant cette finale-là, donc tout peut arriver aux Francouvertes. Passons en finale. Donc, à ce projet-là qui s'appelle Rose, R-A-U-Z-E. Ils ont épaté le public et c'est parce qu'ils ont une bonne présence sur scène. Alors, Rose, c'est un collectif, j'ai envie de dire. C'est un groupe d'excellents musiciens qui font dans le jazz R&B. Moi, je les ai vus puis je me suis dit, mon Dieu, ça serait un groupe que ce serait pas gênant de voir dans n'importe quel festival de jazz au Québec. Mais par contre, c'est ici que moi, je suis assez critique en général lorsque vient le temps de faire ce genre de... Puis je veux dire, moi, j'étais pas jury, là. J'étais juste un simple membre du public et qui votait aux Francouvertes comme tous les membres du public le font. Puis je me disais, ah, c'est le fun, c'est bon. Mais côté musical, là, c'est du jazz quand même bien ordinaire. C'est-à-dire que c'est du jazz classique, cohérent, assez prévisible, avec des instruments qu'on entend dans le jazz. Le saxophone, la trompette.
C'est quand même spécial qu'en décrivant le jazz, tu dis prévisible. C'est...
Mais on n'est pas dans du jazz fusion du tout. Là. C'est du jazz assez standard de festival de jazz. Là. Je veux dire, je suis pas tombé en bas de ma chaise en me disant, mon Dieu, il réinvente la musique. Non, c'est des très bons musiciens. Tous les musiciens étaient très têtes. Mais je pense qu'il y a eu quelques surprises quand même. Là. On a eu quelques sections musicales aux mélodies surprenantes. Il y a même eu une flûte à un moment donné, quand comme quoi, on a entendu,
quand il y a un moment flûte,
on a entendu mes prières. Le moment flûte a eu lieu hier. Mais sans blague, c'est la chanteuse sur laquelle tout le spectacle tient, à mon avis. La chanteuse qui est de l'avant au centre, mais qui donne toujours le spotlight à ses musiciens. Elle s'appelle Rose Perron. Elle a une voix d'ange. Elle a une voix très performante. Mais sur scène, elle s'éclate. C'est elle qui met le party. Parfois, elle va s'effacer, diriger le spotlight, donc le visuel sur ses musiciens lorsqu'il c'est le moment. Elle laisse la place aux autres tout en prenant la sienne. Et ça, pour moi, c'est une performeuse quand même hors norme.
Ouais,
c'est rare qu'on voit ça.
Oui.
Mais c'est une dynamique de gens qui ont fait de la scène depuis 10 ans, puis des fois qu'ils n'ont même pas encore cette qualité-là.
Ouais.
Et c'est ce qui leur donne la première place, j'ai l'impression. Pas tant leur musique que ce qu'ils en font sur scène, finalement. Et l'espèce de franche camaraderie qui règne sur scène. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la finale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme, parce que c'est une chose de savoir faire un bon spectacle, en est une autre de durer, de lancer sa musique, de se démarquer musicalement au Québec en ce moment pour des jeunes projets comme celui-là. Cela dit, pour vrai, ça a été un coup de cœur, je pense, pour beaucoup de monde. Rose, j'ai compris pourquoi en regardant la prestation scénique. Par contre, je pense que la personne qui va gagner les Francouvertes,
la grande prédiction d'Émilie Rioux.
Ah non, je sais même pas c'est quoi. Mais peut-être que ça va être Rose, parce qu'ils sont numéro un depuis le début, ça m'étonnerait même pas. Ça va dépendre de leur prestation à la finale. Si quelqu'un pogne la COVID, on est dans la merde.
C'est une autre paire de manches.
Voilà. Non, mais sans blague, moi, mon critère, lorsque je regarde quelque chose comme public professionnel, nommons ça comme ça, c'est que je regarde un spectacle, puis si j'ai le goût d'être dans le band, c'est parce que t'as bien fait ta job. Si je regarde le spectacle et que j'ai le goût d'être avec toi sur scène, que j'aurais le goût d'être dans le même party que toi, que j'aurais le goût d'être sur scène avec toi, c'est généralement ce qui va faire la différence entre un bon pointage, un mauvais pointage ou un bon souvenir, en fait, du public. Les gens vont bien se souvenir de toi, ils vont être marqués par ta prestation parce qu'ils vont se dire « Oh, j'aurais le goût d'être avec eux dans cette gang-là. Je veux que ce soit mes amis. » J'extrapole un peu, mais c'est cette énergie-là qu'il faut véhiculer sur scène. Et j'ai pas vu ça ailleurs au Francouverte encore que dans la prestation de ce groupe, donc que cette formation-là qui est en ce moment au sommet du top 3. Tout peut changer. Tout peut changer. La grande finale, c'est le 16 mai prochain. En attendant, mais rendez-vous sur les Francouvertes, le site des Francouvertes, donc francouvertes-au-pluriel.com. Vous aurez accès à une chanson par groupe, parce qu'ils ont tous une page qui est préparée là. Alors, il y a un petit lecteur, vous pouvez tout de même avoir un avant-goût de la musique dont je vous parle, parce que bon, j'ai beau vous en parler, il n'y a rien comme l'écouter, effectivement. Et on va donner rendez-vous le 16 mai prochain au Club Soda pour cette grande finale-là. Il y a également une série vidéo qui s'appelle Les 21, qui a été réalisée par Saint-Laurent Télé, TV, pardon, et qui nous dresse un portrait de ces 21 participants-là. Alors, visionnez-les, regardez-les et retenez-les, parce que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de ces projets-là. Et encore une fois, je tiens à souligner un beau coup de cœur pour notre Charlotte Brosseau nationale de Québec, qui s'est rendue aux demi-finales, qui a bien représenté la ville de Québec jusqu'à la toute fin. On avait plusieurs participants de la ville de Québec cette année, notamment Gabé aussi, qui faisait partie des participants, participantes. Et Charlotte s'est tout de même rendue à la demi-finale, alors que c'est un concours qu'on blâme souvent d'être très montréalo-centricisé, centré, puisque c'est les membres...
Ça commence à changer un peu.
Ça veut changer.
Dans les dernières années, ça commence.
C'est grâce à la diffusion numérique.
Oui, tout à fait. Ben, c'était le sujet de la fin de la chronique. Cette finale-là, on va pouvoir l'écouter à Québec.
Tout à fait. Alors moi, je vous invite à le faire. À acheter vos billets. C'est une quinzaine de dollars, en fait, pour avoir accès à un lien de visionnement privé. Vous êtes maintenant habitué, j'en suis convaincue, à ce mode de diffusion-là. Moi-même, je l'ai regardé, vous l'aurez bien compris, quoique on ne sait jamais, mais je l'ai regardé numériquement.
Oui, parce qu'on vient de Montréal la semaine passée. T'as été là cette semaine.
À un moment donné, j'ai pas un appartement à Montréal. Ne vous trompez pas. Là. Je serai toutefois en chair et en os à Montréal parce que pour chaque finale, j'ai l'habitude quand même de m'y rendre là-bas. Il y a comme une effervescence, comme un petit buzz. Et à l'occasion, je souhaite pouvoir interviewer les trois candidats et peut-être revenir à la maison avec des entrevues de ces finalistes-là, en fait, et de savoir un petit peu quelques heures avant la grande victoire, comment est-ce qu'ils se sentaient, comment ça se passait. Donc, on se donne rendez-vous là, sûrement autour du 16 mai pour essayer
Le 16 mai, il va se passer beaucoup de choses. Le début du FM, du FIMAV. Après ça, il y a la fin de semaine à Santa Teresa. Il y a beaucoup de choses en musique qui s'en viennent.
Et à Québec, il y aura le lancement des albums, de l'album des Hôtesses du l'air qui aura lieu au Pantôme. Et ce sera également la Bourse Rideau du printemps. Alors, j'espère que vous êtes prêts, les amis, parce que le mois de mai ne vous laissera pas vous reposer.
Ben, on se tiendra au courant pour ça. Merci, Émilie. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les lundis,
sur les ondes de Chiz,
à 13h, c'est Écoute locale, la playlist.
Ben non, c'est les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h, les entrevues.
Mais c'est moi qui l'anime, là, je le sais, je monte ça, là, je fais une sélection des artistes, là, puis tout le monde qui... C'est...
Et fais-la donc tout seul dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute locale sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est le but!
Vendredi 19h, les Remparts accueillent les voltigeurs de Drummondville au Centre Vidéotron. Ray Cloutier vous présentera l'avant-match dès 18h45. Remparts contre voltigeurs, ce vendredi 19h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Médard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un phare dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h38 et je vais maintenant parler de celle que vous venez d'entendre avec Umami, Clopelgag. On en avait énormément parlé au dernier gala de la disque parce qu'elle avait tout cassé. Et là, c'est une autre bonne nouvelle en lien avec cette grande artiste du Québec qui a été annoncée aujourd'hui. C'est sorti dans les médias puisqu'elle fera la première partie de Mika, cet artiste incroyable. Qui sera au Centre Bell et aussi au Centre Vidéotron, donc à Québec. Ce sera possible de voir Clopelgag ouvrir pour Mika. Et lui, cet artiste, quand il s'est fait demander, Clopelgag va faire la première partie de tes spectacles au Québec. Qu'est-ce qui t'a incité à la choisir? Lui de répondre, ben il adore Clopelgag. Il s'est fait proposer finalement une petite sélection d'artistes et il a choisi Clopelgag pour finalement donner un avant-goût de son spectacle. Comme je l'ai dit, ce sera du côté du Centre Bell et du Centre Vidéotron. C'est à la fin avril, c'est le 27, si je me trompe pas, à Québec et le 25 à Montréal. Je veux aussi vous parler d'un show ce soir qui vaut absolument la peine. C'est à l'Impérial, un genre de party rap keb parce qu'on a vraiment des superstars de ce rap jeu au Québec avec Skyfall. Je vous en parle, ça fait deux semaines, je vous en parle parce que c'est vraiment une messe quasiment de rap keb. Oui, justement, Skyfall, cet artiste de Côte-des-Neiges à Montréal, je vous en parle en long et en large à chaque fois parce que c'est vraiment un artiste prometteur, une recrue qui va vraiment donner un nouvel aspect au rap keb, lui qui est dans la musique aux influences un peu plus reggae, mais aussi en même temps, il garde vraiment un côté rap dark, donc Skyfall qui avait fait entre autres un color show, ça c'est quand même quelque chose à avoir le fun d'avoir sur son CV pour Skyfall, son CV de rap. Il va ouvrir pour À la claire ensemble, c'est le grand spectacle de ce soir. Il y aura aussi en ouverture Original Gros Bonnet, ceux qui vont être 7 sur scène. Il y a aussi finalement
gagné les francs-couvertes d'ailleurs, hein?
Original Gros Bonnet qui ont gagné les francs-couvertes, comme nous dit très bien Émilie Rioux. Original Gros Bonnet, c'est du jazz, c'est du rap, encore une fois Frankie Fade, François Fondu qui est devant cette formation, grande gagnante de la, si je me trompe pas, 24e édition des francs-couvertes. C'était avant la COVID, avant finalement la cohorte de Full Québec, la finale avec Narcisse, Valence et Ariane. Bref, je m'égare et on va revenir à l'Impérial ce soir à la claire ensemble. Oui, les cinq incroyables rappeurs qui seront sur scène pour présenter peut-être des nouvelles chansons. On le sait qu'ils ont été un peu sous le radar dernièrement. Ils ont fait des spectacles, quoique un peu partout autour du Québec. Ils vont en faire entre autres cet été encore une fois, mais c'est ce soir que ça se passe à l'Impérial pour Skyfall, Original Gros Bonnet et À la claire ensemble. Il y a même aussi un after party. Ça recommence, ça. C'est finalement party d'après-show. Ici, du côté de La Cuisine, je vous en parle aussi parce que c'est un genre de spectacle lancement pour celle qu'on a reçue en ouverture d'émission hier, Mod Lee, première femme signée sur 17e ciel. Elle a fait paraître Soul Urge vendredi dernier et j'ai l'impression qu'on va l'entendre ce soir du côté de La Cuisine. Il y aura des DJ assez populaires de Québec, entre autres Lou Fresh, Producer, Made on Mars aussi, si je ne m'abuse, mais on se donne rendez-vous autour de 11h à La Cuisine. Arrivez quand même tôt parce que ça se remplit très vite. C'est gratuit, mais ça se remplit très vite. Donc voilà pour cette soirée spéciale du jeudi 21 avril avec À la claire ensemble qui seront à l'Impérial. Belgery, allez avec une de leurs chansons que j'adore et Mod Lee est en plus sur la production de ce track qui s'appelle 436, il y a aussi Caro Dupont sur cette pièce qui finalement c'est la dernière de leur album Le sens des paroles, oui, qui est sorti en 2018. On y va avec 436 d'Al Claire ensemble. Au retour, je parle avec Nadia Girard Edaya pour la pièce Disgrâce qui est au théâtre Premier Acte.
The more you give, the more you get. Les plus tu donnes, dans ton cœur se lève. Les oiseaux sifflent, my uncle said. Peu importe ton thing, all the love's the same. The more you give, the more you get. Les plus tu donnes, les oiseaux sifflent, my uncle said. Peu importe ton lane, I'ma do my thing.
Hommage à mon héritage. Humble et dur, je fais mon bricolage. Ce que je te raconte, c'est du véritable. J'essaie de ramener mon petit fromage. Tout ce qu'ils vont dire, c'est du bidonnage. Le badge, c'est du siphonnage. Tu fermes ton clavier, puis tu prends du cash. Tu vas sortir quoi, mais un non coupable. Destine scolaire, comme dégueulasse. Sors de là-bas, tu sais même pas conduire un rack. Tu sais même pas comment déclarer des taxes. Mais ça paraît qu'ils t'ont appris des maths. J'ai juste apprendre maintenant les touches de 10. Que j'ai compris ce qui se passait en 436.
Soft et puis régulé. Et dans tant que sur ma chiche, je fais juste inquiéter. Vive la police, j'aurai décuplé. Ton poste de police, on va l'occuper. Alors les cops de l'État, ils vont déborder. J'ai l'air dans l'autobus de prisonnier. Qui tourne la troisième à 8h30. Ça me rappelle quand j'étais là pour rire le vide. Je me suis déjà senti comme un. En dehors d'une prise, la honte de ta vie, puis tu gardes le cheese. Pire que t'attends dans ta télévise. Fuck all the y'all, on fera pas les guignols. Au spécial de Noël, devant 3 millions de personnes. Faut pas nous prendre pour des bitches. Tu sais, ben cash, je le suis, nous les bitches.
Cool, les petits amants qui donnent. Les oiseaux chantent, la lumière rentre. Seul et seul, on veut un zombie. Prise pour les lignes, j'en donne un bœuf. Mais tu gagnes un bœuf. Tu bois votre glace ou tu hop au pain. Je sais ma shit, jamais j'essaie. penseau et je plonge, car promis, y'a peu ça, c'est donné.
Là, je retourne au resto, plongé par moitié. 200 pièces de vaisselle, bon fils fait son poste, tout ça y est encore émotif. Fantassin en réserve, lève la foire en costume, valet d'hôtel cossé, je roule des Porsche, des Jeeps modifiés qui ont l'air de des tanks. Check le club, il ferme, preuve en 5 AM, if c'est moi le concierge, vive le champ, j'échappe et je fais des pièces avec des scènes. Même quand je me sens blessé, been counting my blessings, le doux up et le dessus, tout ça tombe foutu, ben comme dans shit à dèche, yeah.
The more you give, the more you get, les plus tu donnes, donnes, ton cœur se lève. Les oiseaux sifflent, my uncle said, peu importe ton thing, all the love's the same. The more you give, the more you get, les plus tu donnes, 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 les oiseaux sifflent, my uncle said, peu importe ton lane, I'ma do my thing.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez 436 de Modley, Caro Dupont et à la Claire Ensemble qui seront à l'Impérial Bell ce soir. Et c'est maintenant le temps de parler avec Nadia, Gérard et Daya qui est au bout du fil en ce moment. Salut Nadia, ça va bien?
Salut Félix, oui ça va.
On se parle pour une pièce qui est au théâtre Premier Acte, ça s'appelle Disgrâce et ça a commencé, ça va être jusqu'au 7 mai. Et ben je voulais qu'on en parle parce que c'est une histoire qui se répète finalement le synopsis de cette pièce là et je voulais qu'on en parle pour savoir aussi ben l'idée que tu as eu derrière ça. Comment est-ce que tu me présenterais cette pièce là Disgrâce si je ne la connaîtrais pas?
Ben, en fait, c'est l'histoire de Thomas, qui est un homme qui était une grande personnalité publique, qui connaissait beaucoup de succès, qui était un animateur vedette, qui, du jour au lendemain, se retrouve au prix dans un scandale sexuel qui est très médiatisé, puis pour lequel, ben, finalement, il va avoir plainte qui va être portée au tribunal, donc il va se retrouver donc à être accusé. Et moi, ça m'a été inspiré par l'affaire de John Gomeshi il y a quelques années, en fait, comme en 2014. Puis j'avais lu dans les articles qui parlaient de cette affaire-là que pour éviter d'attendre le procès en prison, parce que entre les accusations et le procès, il peut se passer un an. Donc, pour éviter d'attendre le procès en prison, ben c'est possible d'avoir d'être sous caution. Et puis évidemment, il n'y a pas 1000 personnes qui vont faire ça pour toi dans la vie. Puis dans le cas de Diane Gomeshi, c'était sa mère. Donc, il s'est retrouvé sous la surveillance de sa mère, être assigné à la résidence de sa mère. Donc, c'est vraiment ça d'espèce de point de départ de la pièce. Là, j'étais vraiment curieuse de ce huis clos-là entre un fils prodige, tout d'un coup banni, face à sa mère. Puis aussi, avec la puis parallèlement à ce huis clos-là, il y a la préparation avec l'avocat.
Ouais.
Puis ça aussi, c'est très inspiré de Gomeshi, mais de d'autres cas aussi, parce que souvent, ces hommes-là accusés d'agression sexuelle sont défendus par une femme. Ça paraît quand même assez bien. Puis, c'est des figures qui sont souvent médiatisées, comme Marie-Hélène ou Donna Rotunon. Donc, des espèces de femmes avec une grande force de caractère, puis qui les défendent. Fait que de plonger un peu dans leur philosophie là, pour se préparer à ce procès-là.
Donc, il y a deux aspects de cette pièce-là que tu viens de me présenter et j'aimerais qu'on les aborde les deux. Premièrement, la relation avec la mère qui, comme tu l'as dit, passe finalement d'un fils qui aurait tout réussi, puis là, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas si bon que ça. Est-ce que ça doit quand même être tendu comme environnement?
Oui, mais en fait, effectivement, la pièce, on peut s'attendre à ça. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de malaise. Fait que voilà. Oui, effectivement, il y a beaucoup de... Il y a une grande résistance de la mère à vouloir admettre ces faits-là sur son fils, évidemment. Mais il y a comme une désillusion qui est lente à procéder pour elle.
Puis du côté du travail avec l'avocate, est-ce que c'est un peu, ça doit être frustrant un peu de voir le côté qui essaie de défendre quelque chose qui est pas vraiment défendable à mon avis?
Ouais, ben c'est un peu le propos de la pièce, hein, de rentrer dans cet univers-là qui est un peu qui est presque clinique en fait. Mm-hmm. Dans, de, ben il y a une loi, puis il y a des façons de soulever des doutes, puis s'il y a des doutes qui sont suffisamment soulevés, ben même si on a toutes les raisons de croire la victime, ben si on a réussi à soulever un doute, ben finalement la cause tient plus parce que tout repose sur la crédibilité de la victime. Donc, dès qu'il y a une petite matière à soulever un doute, c'est terminé pour elle.
Et ben, comme tu l'as dit, c'est en lien avec une histoire vraie, finalement, l'histoire de Jeanne Gomeshi, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'actualité. On peut penser à des personnalités connues au Québec qui se sont retrouvées finalement des situations en cours comme ça, qui ont pu s'en sortir, comme tu l'as dit, à cause qu'on se base sur la crédibilité de la victime. Ben, en lien avec ça, quel genre de réflexion est-ce que pas nécessairement tu voudrais, mais que tu penses que le public va avoir suite à après avoir expérimenté, si tu me permets l'expression, disgrâce?
Ouais. Ben, j'espère que ça va un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai qu'au final, la pièce, je pense pas que c'est une simple réflexion là, mm-hmm. sur le système judiciaire. Là, ça va plus dans... je pense que ça explore plus notre relation à ces figures-là, à comment... ben comment certaines personnes par leur charisme, par parce qu'ils arrivent à imposer à une relation, ben dominent notre perception, puis qu'on devient vendu d'avance à eux, puis on leur pardonne tout, puis on vit dans le déni, puis on les confronte pas, puis finalement ils se retrouvent à avoir tellement de permission, puis à prendre tellement de pouvoir sur les autres là. Fait que c'est un peu cette exploration là de découvrir là qu'est-ce qui en nous permet la violence chez les autres, ou en tout cas, ni la violence des autres.
Tout à fait. Ben c'est vraiment une situation qui mérite d'être analysée plus en détail, puis la pièce nous permet de voir finalement ces situations je dirais qui sont en train de changer socialement. On se questionne oui. sur finalement qu'est-ce qu'on fait aussi avec ces personnes-là qui peuvent être acquittées, mais finalement au niveau de leur rôle social, est-ce qu'on veut les voir encore? Bref, oui. plein de questionnements qui restent encore mm-hmm. Sans réponse, mais la pièce Disgrâce peut vous aider à voir ça d'une autre façon. Et mm-hmm. ben j'étais avec Nadia Girard et Daya qui a écrit cette pièce-là, oui. qui a aussi assisté pour la mise en scène. Donc, je vous invite oui. à aller voir ça. C'est depuis le 19 avril jusqu'au 7 mai prochain au Théâtre Premier Acte. Et ben, je ne sais pas s'il y a comme on dit dans le milieu, des shout-outs que tu aimerais faire, peut-être des gens qui ont participé avec toi pour la création de cette pièce-là.
Ah ben oui, certainement. Moi, j'ai été vraiment chanceuse là, pour la création de ce premier texte-là. J'ai vraiment une équipe de feu à la distribution. C'est Marie-Ginette Gay qui pratique ce métier-là depuis 40 ans, qui est magnifique dans le rôle de la mère. Mm-hmm. Frédéric Bradet, Gabriel Fournier, qui sont tous très, très bons. Donc, c'est une distribution à trois personnes. C'est Gabriel Cloutier-Tremblay qui a fait la mise en scène et la scénographie. Moi, j'étais très heureuse qu'il accepte ce projet-là parce que je trouve qu'il y a vraiment une façon de créer l'espace où on est vraiment enveloppé, on se sent vraiment, on voit plus du tout le théâtre dans lequel on est, puis on mm-hmm. se sent vraiment pris dans l'univers de la pièce. À la conception sonore, on a Jean-Michel Le Temps de Veilleux. C'était une première incursion pour lui dans le théâtre.
Ben oui, j'ai été surpris de voir son nom, lui qu'on connaît entre autres pour Pure Carrière, un des membres du Pantoum aussi. C'est spécial de le voir comme tu l'as dit, première fois au théâtre.
Oui, première fois au théâtre, on était vraiment contents de l'avoir. Mm-hmm. La conception sonore là, participe vraiment beaucoup à l'ambiance, ça marque chaque scène, fait que c'est vraiment super intéressant. Sinon, on a Kevin Dubois qui est vraiment à la conception lumière et projection, là, c'est vraiment quelqu'un de grand talent qu'on voit qui participe à énormément de productions puis qu'on a eu la chance d'avoir avec nous. Puis Marie-Mick Nicole qui est au costume puis qui participe vraiment beaucoup à donner un caractère là, à ces personnages-là. Fait que vraiment une super équipe.
Ben, c'était l'équipe de la pièce Disgrâce. Je le rappelle là, que c'est possible de voir au théâtre Premier Acte jusqu'au 7 mai. Donc, c'était Nadia Girard et Daya qui a signé le texte et la mise en scène, l'assistance avec Gabriel Cloutier-Tremblay. Merci beaucoup, Nadia, d'être passée à Chérie, j'arrive.
Ben, merci de m'avoir reçu. Au plaisir.
Salut. Nous, on va y aller en musique avec la pièce Bien dans rien de Laurent Sane. Au retour, on poursuit à Chérie, j'arrive.
Bouder le sol et balayer le soleil. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tirez le ballon! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Oui. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Salut, vous avez bien rejoint Francis. Si vous entendez ce message de boîte vocale, c'est sûrement parce que je suis quelque part en pleine nature. Voyez-vous, je viens de commencer un emploi à la CEPAC. Ça me ressemble tellement comme emploi d'été. Je passe plein de temps au grand air, je rencontre du monde incroyable et surtout, je permets aux gens d'être en contact avec leur nature. Vous aussi, vous pouvez vous joindre à l'équipe. Il y a des emplois disponibles aux quatre coins du Québec. Pour appliquer, c'est au cepac.com/carrière. Ben oui, donc c'est ça. Laissez un message après le bip.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission deux en un, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
I'm young and I'm living fast. Ooh, oh, oh. J'bang dans le vice, j'suis un living mess. Why would I stop? C'est meaningless. Des fois j'feel down, yeah, yeah. I gotta go somewhere else. Trouver refuge dans le ciel. Loin de mes torpes et de mes peines. J'suis un flexeur, j'suis un grown man. Faudrait pas que sache que j'ai mes failles. C'est des little boys, on est different. Faudrait pas que sache que son état. Après son son, c'est des tonnes. Wow, wow. Pop me a bill, puis j'suis numb. Wow, wow, wow. J'passe les soins, démons dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Mais c'est tellement réel. J'crois que j'ai perdu la tête. J'ai déjà pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve. J'passe les soins, démons dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Mais c'est tellement réel. J'crois que j'ai perdu la tête. J'ai déjà pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve.
J'fais des choix difficiles, j'ai une bonne discipline. J'sens le positivisme. Yeah, yeah, j'te garde, j'suis un verse expéditif. Ils sont compétitifs, moi j'suis perfectionniste. J'veux mes rivaux comme un apéritif. J'fais que du sale comme un homme primitif. J'aime pas ton track, non c'est répétitif. J'aime pas ton rap, mais c'est très décisif. Validé, ouais, tu sais que j'suis légitime. Y'a pas d'obstacle, non, j'les élimine. J'écris des lignes sous la psilocybine. J'garde le focus sous les amphétamines. Pour le point, you serve ça à domicile. Y'essaye de me tester, ça fuck, j'suis difficile. J'pense j'ai jamais enchaîné autant de rimes. J'ai la tête qui tourne, besoin d'une aspirine. Wow.
Gotta make it work, I'm gon' chase that. Puis j'ai déjà prévenu maman, j'veux un face that. Mon propre ennemi, yeah. Had to face that. Now we're young and grown, puis j'te promets, I'm gon' change that. J'passe les soins, démons dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Puis c'est tellement réel. J'crois que j'ai perdu la tête. J'ai déjà pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve. J'passe les soins, démons dans ma chambre. Jamais j'aurais cru qu'on aurait fumé ensemble. Puis c'est tellement réel. J'crois que j'ai perdu la tête. J'ai pas grand chose à perdre. J'espère que c'est seulement un rêve.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h04, on est jeudi, c'est la chronique Histoire de lire avec Alex Tremblay-Lamarche. Ça fait pratiquement un mois qu'on ne s'est pas parlé en ondes. Ben, rebonjour Alex.
Bonjour Félix, content de te retrouver.
Ben moi aussi, on a eu, j'ai eu la COVID, toi tu l'as pas eu durant...
Pas ma connaissance, mais je suis en train de me demander si la COVID ne me boude pas.
Ça reste quand même une chance aussi de pouvoir parler. Comme à chaque jeudi habituellement, de trois ouvrages, c'est ta structure habituelle. Et aujourd'hui, tu veux jaser revue et littérature. Tout tu m'as préparé trois titres. On va commencer avec la révolution du magazine au Québec, poétique historique de la revue moderne de 1919 à 1960. C'est d'Adrien Rano. Donc, on fait toute l'historique des magazines au Québec?
Non, on se concentre plutôt sur un magazine en particulier, qui s'appelle La Revue Moderne. Le second ouvrage dont je parlerai, lui, fait davantage quelque chose d'un peu plus large sur les revues au Québec. J'avais envie de parler de ce sujet puisque, bon, depuis quelques années, on redécouvre la revue comme vecteur de littérature. On a longtemps, vu le livre comme étant la seule forme légitime de littérature. Puis, avec les nouvelles études qu'il y a eu en littérature, on a commencé à s'intéresser au journal, on a commencé à s'intéresser à la revue. Et Adrien Rano est l'une de ces figures qui s'intéresse à la revue. Et c'est également une des figures qui s'intéresse aussi à la littérature des femmes. Et l'un des premiers endroits où on va trouver les femmes dans la littérature québécoise, c'est effectivement dans les revues, notamment dans la revue Moderne qui est fondée en 1919 par Madeleine, une écrivaine donc, et qui va faire une large place aux questions féministes. En fait, question féministe, c'est peut-être un petit peu anachronique, mais qui propose une revue qui, veut proposer du matériel pour les femmes, veut effectivement s'adresser à la lectrice. On est dans un magazine féminin de grande ampleur, mais également dans une revue littéraire. Et c'est ça qui est intéressant et que met de l'avant Adrien Rano dans son ouvrage, c'est que la revue moderne, c'est pas qu'une revue pour madame, là, tu sais, puis là, je mets des gros guillemets. C'est vraiment, effectivement, une revue littéraire avec des auteurs quand même assez importants. C'est là que Gabriel Leroy va faire ses premières armes. C'est là également que plusieurs autres auteurs connus plusieurs autres auteurs connus tout simplement vont y contribuer. Mais en même temps, il y a vraiment cette volonté-là aussi de développer un magazine féminin de grande ampleur, de donner effectivement une place aux femmes via ce magazine. Et ce magazine, il existe d'ailleurs toujours encore aujourd'hui, mais il a changé de nom en 1960 parce qu'il s'appelle dorénavant Châtelaine.
Ah, bon, donc on le connaît bien sans même le savoir. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, que c'est pas un magazine de madame, comme on pourrait étiqueter, disons, je sais pas moi, le Hollywood PQ, le 7 jours, mais comment est-ce qu'on les différencie, justement, ce magazine-là, la revue moderne, c'est quoi, il y avait des nouvelles, t'as parlé de Gabriel Leroy, il y avait des petites sections où, justement, il y avait des propositions littéraires, ça ressemblait à quoi, visuellement, cette revue-là?
Eh bien, c'est là que c'est particulièrement intéressant, c'est que c'est une revue qui va effectivement faire place à des récits littéraires. Pas seulement effectivement, à des articles comme on le voit un peu plus aujourd'hui dans les magazines de 2022. À l'époque, la littérature pure, si je peux m'exprimer ainsi, a peut-être plus de place. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une volonté de créer en fait une communauté imaginaire de lecteurs, en y allant avec quelque chose là, comme qu'elles sentent en fait qu'elles sont proches les unes des autres, qu'elles sentent que les auteurs et les autrices du magazine justement sont proches. Donc on va avoir un courrier du lecteur qu'on va développer, qu'on va appeler le petit salon, toujours dans cette idée de proximité. Il va également y avoir une chronique qui va s'appeler Confidentiellement, qui va être tenue par Michel Tisser, la célèbre journaliste. Donc, il y a vraiment effectivement cette idée-là d'avoir quelque chose là, qui est proche des lectrices. Et c'est ce qu'on va développer à l'époque. Faut dire que, dans les années 1920-1930, il y a quand même un discours ambiant nationaliste, clérical, qui est quand même assez fort. On retrouve un Québec qui s'émancipe tranquillement. événement, avec les gens qui arrivent dans les villes, les gens qui ont des nouvelles idées. Mais il y a quand même le discours, par exemple, d'un chanoine Groulx qui est assez fort. Et dans la revue moderne, bien, ce qu'on propose, c'est vraiment un tout autre discours sur la femme, un tout autre discours également sur la société. On n'est pas, bon, dans la littérature du terroir qui exalte de retourner aux sources, d'aller coloniser, puis de la vie rurale, un peu comme Maria Chapdelaine le fait dans une certaine mesure. Mais on est plutôt, effectivement, face à une mère de famille urbaine, classe moyenne supérieure, et à lui proposer quelque chose là, qui va la stimuler, va l'intéresser. Et donc, c'est assez intéressant ce qu'Adrien Rano nous propose dans cet ouvrage, parce qu'on découvre, bon, la naissance du magazine québécois. Bon, comme on va le voir avec le deuxième ouvrage, le magazine québécois est plus ancien, mais bon, en 1920, il y a quelque chose qui se passe avec la revue moderne et qui va prendre un essor aussi avec la société de consommation. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on découvre, en fait, dans cet ouvrage.
Donc, pour conclure avec cet ouvrage d'Adrien Rano, La Révolution du magazine au Québec, c'est l'addition de toutes ces parties-là que tu viens de me dire, entre autres l'aspect vraiment de communauté, de parler avec son auditoire, c'est d'offrir une nouvelle vision du féminisme ou de la place de la femme. C'est ça, cette révolution-là, ou c'est quelque chose vraiment d'autre chose qu'on parle en lien avec la revue moderne?
Oui, c'est exactement ça. Je pense que tu comprends bien le propos de l'auteur. Cette révolution, effectivement, du magazine au Québec, c'est vraiment, bon, ce fait qu'on passe à un magazine à plus grand tirage dans une société de consommation où le magazine est consommé tel quel, mais également, effectivement, le fait qu'on va mettre de plus en plus de place aux femmes, autant dans leurs intérêts que, bon, en tant que productrice de la revue. Et, bon, qu'on tente, effectivement, aussi de naviguer sur les querelles de l'époque. Parce que, oui, effectivement, bon, la revue moderne se positionne résolument du côté de la modernité, ouais. Mais en même temps, bon, elle tente quand même de naviguer entre la querelle des régionalistes et des exotiques qu'il y a à l'époque. Il y a deux courants très forts en littérature, comme je mentionnais. Bon, un qui est plus la littérature du terroir, les régionalistes, et l'autre, les exotiques, qui, veulent quelque chose de plus moderne, sont tournés vers la France, sont tournés effectivement vers la nouvelle littérature. Ouais. Et la revue moderne va réussir assez habilement, effectivement, à naviguer au-dessus de ces querelles-là et à aller essayer de rejoindre un lectorat le plus large possible.
Donc là, on a abordé les magazines au Québec de 1919 à 1960 avec l'œuvre d'Adrien Rano. Mais là, on va y aller d'une façon plus globale, comme tu l'as dit, plus générale, avec l'histoire des revues. C'est quand que ça a commencé?
Ça dépend ce qu'on considère être comme une revue, parce que comme le mentionne Lucie Robert dans un texte de ce collectif Relire les revues québécoises, on peut considérer qu'il y a des revues dès le 18e siècle dans une certaine mesure, mais c'est vraiment plus au milieu du 19e siècle, au lendemain de l'échec des Patriotes, que vont se développer des revues, et c'est en grande partie dans les revues que va naître notre littérature. À l'époque, bon, la possibilité effectivement de publier un livre est quand même difficilement atteignable, parce que
il n'y avait pas de maison d'édition,
puis également ça coûtait cher. Il fallait être sûr d'avoir un lectorat, alors que publier sous forme de journal, de revue, c'était beaucoup plus facile. Et donc on va avoir des revues qui vont se développer dans la deuxième moitié du 19e et qui vont effectivement donner lieu à l'éclosion effectivement d'une littérature nationale. Puis, bon, ce qui va se passer au 20e siècle, elles vont également donner lieu à davantage d'éclosions de mouvements politiques, la montée du nationalisme, la montée aussi, bon, d'un certain fédéralisme, la montée effectivement d'une modernité va s'exprimer dans ces revues-là. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit dans le texte de Lucie Robert dans Relire les revues québécoises, histoire, forme et pratique, mais c'est également quelque chose aussi qu'on voit dans les autres textes de ce collectif. On parle de 13 textes qui explorent autant de pans des revues. C'est assez varié. On a autant des textes sur des revues féministes que sur des revues de la contre-culture, la presse gay, les revues humoristiques. Donc, on explore différents pans de l'histoire des revues au 20e siècle principalement. et au 21e siècle aussi dans une moindre mesure en fonction effectivement des auteurs.
Donc on parle des revues, des magazines, on parle de cette façon d'exprimer la littérature, mais on en parle au Québec.
Oui.
Est-ce qu'il y a une particularité ou un aspect anecdotique qui nous différencie des revues ou des magazines ailleurs dans le monde, ou c'est plutôt on va refaire comme dans tous les endroits quand les magazines y ont commencé? Est-ce qu'on suit finalement la même histoire? Comment est-ce que tu l'as lu?
Eh bien, on suit effectivement ce qui se passe de manière plus large, mm-hmm, aux États-Unis, également en Europe. Et on va également effectivement voir certaines spécificités québécoises, mm-hmm, parce qu'au Québec, les revues vont prendre une importance quand même assez importante dans la Révolution tranquille. Mm-hmm. On pense à des revues comme Parti pris, créée en 1963 et qui va fermer en 1968, qui est la revue qui a fait passer la dénomination de Canadien français à Québécois. Mmh. Et donc, c'est à partir de cette revue-là qu'on, ouais, va avoir effectivement un souffle qui va amener vers ça. On pense à des revues comme Croc, qui est une revue humoristique qui va exister à partir de 1979 jusqu'en 1995 et qui va rire de cette folklorisation qui est en train de se passer au Québec à l'époque. Jonathan Livernois, qui est d'ailleurs prof à l'Université Laval, le met très bien de l'avant. À l'époque, au Québec, il y a vraiment un désir du retour aux origines. C'est la montée, effectivement, du nationalisme québécois. C'est l'époque où le Parti québécois vient d'être élu. Il y a un grand intérêt, effectivement, pour l'histoire québécoise.
On dirait que c'est une contradiction de mettre folklorisme avec Révolution tranquille. C'est pas justement de vouloir se tourner vers la modernité plutôt que de retourner vers le passé?
Oui, effectivement, ça peut sembler contradictoire, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que à partir au début des années, dans les années 50, 60, mm-hmm, une revue comme Cité Libre va effectivement briser les chaînes de la laïcité, vouloir effectivement faire la révolution tranquille. Mm-hmm. Plutôt dans les années 80, 90, lorsque même 70, lorsqu'effectivement il y a une montée du mouvement nationaliste, eh bien là, il y a un désir de retourner aux origines, okay, pour effectivement légitimer l'indépendance en disant « Oui, mais nous, on est français, c'est pas comme, ouais, les Anglais. » Puis là, j'emploie les termes de l'époque parce que, c'est quand même plus complexe que ça. Mm-hmm. Et il y a vraiment effectivement cette volonté-là de faire son arbre généalogique dans les années 70-80. Mm-hmm. Ce goût du patrimoine, les antiquaires font des affaires d'art à l'époque.
Comme si se retourner vers l'arrière, justifier notre indépendance.
Exact. Et c'est également l'époque où on va restaurer Place Royale on va détruire du patrimoine authentique du 19e siècle pour construire du faux patrimoine
du 17e et du
18e siècle. Ouais, c'est un leitmotiv. Hein. C'est quelque chose dont les rédacteurs de Croc vont beaucoup rire. Mm-hmm. Jonathan Livernois, justement, analyse un petit peu cette dérision que font ces gens là de cette espèce de folklorisation. Il rit également de l'UQAM, il rit de la gauche, il rit du PQ, alors qu'ils sont eux-mêmes issus de ce milieu-là. Ouais. Et donc, un bon sens d'autodérision qu'on peut voir à cette époque.
Ben, c'est un recueil de textes sur l'histoire des revues au Québec, ouais, qui a été publié. C'est par Élise Gay et Rachel Nadon. On va passer maintenant à ton troisième ouvrage. On a parlé deux fois de revues, mais on ne parle plus de ça, je pense.
Effectivement, on continue à parler quand même un peu des revues parce qu'il s'agit d'entretiens que Michel Biron et François Dumont ont fait avec André Major. Okay. André Major, il n'est plus très, très connu aujourd'hui, particulièrement de notre génération, mais à une certaine époque, c'était un auteur quand même assez important. Et le lien avec les deux ouvrages précédents, c'est qu'il a participé à la fondation de Parti pris, également à l'Union des écrivains québécois. Mm-hmm. Il a également publié dans plusieurs revues. Donc, on a quelqu'un qui a contribué à cet écosystème dans les années 1960, ouais, et après, et qui a été un auteur quand même assez important et qui s'est tranquillement effacé par la suite. Et donc, Michel Biron et François Dumont ont décidé de faire trois entretiens avec lui. Un premier un peu plus sur les origines, un second sur son passage à Radio-Canada, mm-hmm. un troisième un petit peu sur son retrait du milieu littéraire et de la vie publique ouais. Pour nous permettre de mieux comprendre cette figure littéraire.
Mm-hmm. Donc, on apprend à le connaître d'une façon biographique. Est-ce qu'on explique un peu son désir derrière, mais de parler entre autres de parti pris, mais est-ce qu'on on essaie de comprendre qu'est-ce qui a mené à la création de parti pris?
Oui, et on comprend aussi ce qui a amené André Major là, à se sentir détourné par la suite. Mm. Parce que, bon, on voit qu'il y a effectivement une montée de la gauche indépendantiste, une montée de l'indépendantiste tout court, parce qu'il y en a également à droite, mm-hmm. Une montée effectivement de ces mouvements-là et une volonté de leur donner une voix. Et cette voix-là, effectivement, va aller un petit peu dans toutes les directions. Alors, 1965, André Major va appeler à prendre les armes et à la violence pour effectivement réaliser l'indépendance. Et il va rapidement se rendre compte que son appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et qu'il y a un groupe qui s'appelle le Front de libération du Québec ouais. qui dit « Hey, ça serait une bonne idée effectivement de recourir à la violence ». Et André Major va se détourner de la revue Parti pris effectivement après avoir lancé cet appel à l'univers qui a malheureusement trouvé un écho. Et donc, on voit ses années de jeunesse. On voit également son renvoi du collège classique là, pour avoir publié des écrits anticléricaux. C'est fait sous forme de questions-réponses. Donc, comme je mentionnais, ce sont des entretiens. Fait que ça rend la chose assez dynamique. Dans un deuxième temps, comme je le mentionnais, on est plus du côté de Radio-Canada. André Major va devenir réalisateur à Radio-Canada, principalement d'émissions littéraires. Et il va être un acteur, effectivement, de la vie culturelle québécoise dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mais il va se rendre compte que, petit à petit, on va tranquillement faire de moins en moins de place à la culture pub. Mon lapsus est quand même intéressant. La culture pure, ouais. pour en faire peut-être de plus en plus à cette espèce de culture pop, culture pub. Et donc, on se dit que parler de littérature, c'est trop élitiste, puis qu'il faut plutôt effectivement faire ça des émissions de brunch ou des émissions effectivement de petite culture légère. Et lui, il va partir de Radio-Canada parce que il va trouver justement qu'on passe, et je le cite, du temps des poètes au temps des farceurs. Effectivement, rentrer dans une phase un petit peu plus de réclusion. Là.
C'est vraiment intéressant parce que c'est une vision que je partage en partie, ouais. entre autres, on peut penser... finalement aussi à des on parlait de finalement son sa référence au temps des poètes, au temps des farceurs. On regarde des fois le portrait de ceux qui font de l'animation radio. Je pense je donnerai pas de nom, mais il y a des fois des humoristes qui sont placés devant un micro alors que des animateurs radio professionnel, ça n'existe plus. En tout cas, il y a une pensée là-dedans que je partage en partie. Je vous invite à connaître davantage André Major si vous le connaissez pas déjà avec ses entretiens avec François Dumont et Michel Biron. Donc, c'est ce qui conclut ta chronique Histoire de lire. On fait comme à chaque fois le retour sur... Donc, je te laisse dire les auteurs, autrices et titres de tes ouvrages.
Oui, donc, on a commencé avec La Révolution du magazine au Québec, poétique historique de la revue moderne 1919-1960 d'Adrien Raneau, publié chez Nota Bene. Si vous voulez en apprendre sur les origines de Châtelaine et la montée effectivement des femmes dans la littérature québécoise et la structuration aussi d'un magazine, c'est une belle étude de cas. Mm-hmm. On a ensuite poursuivi avec Relire les revues québécoises, histoire, forme et pratique 20e et 21e siècle, publié aux presses de l'Université de Montréal sous la direction d'Élise Gué et Rachel Nadon. Un collectif qui nous permet de vraiment voir l'importance que les revues québécoises ont eue au 20e et dans une moindre mesure au 21e siècle. Ouais. On explore tant l'influence effectivement de la presse gay dans l'affirmation de la communauté homosexuelle que la presse, en fait les revues effectivement féministes ou les revues de la contre-culture comme Mémise. Et finalement, André Major, Entretien de Michel Biron et François Dumont, publié chez Boréal. Une belle occasion l'occasion de découvrir cet écrivain qui a été quand même assez connu dans les années 60, 70 et 80 et qui s'est tranquillement éclipsé de la scène publique. Donc, si vous voulez en apprendre plus, effectivement, sur la place de la littérature, la place que devrait avoir la littérature dans la société, eh bien, je vous invite à lire les propos d'André Major. C'est sous forme d'entretien, fait que c'est quand même assez léger.
Alors voilà ce qui conclut la chronique du 21 avril, Histoire de lire, avec Alex Tremblay-Lamarche. Merci et on se dit à la semaine prochaine.
Avec plaisir.
On y va maintenant pour le jingle de conclusion, comme à chaque fin d'émission. Et oui, c'est le temps de faire le plan de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'émission. J'ai commencé avec une entrevue avec Brunswick, ceux qui sont en spectacle à l'Antibar ce soir. Allez voir ça, c'est en duo aussi avec Paupière. À 16h15, j'ai parlé avec Émilie Rioux pour sa chronique Coup de théâtre. Elle m'a parlé de la 26e édition des Francouvertes qui ont finalement hier nous annoncé les trois finalistes de cette édition. Ce sera Rose Haute et Émilie Bourgault qu'on va retrouver le 16 mai au Club Soda pour cette grande finale de les Francouverte 2022. J'ai parlé à 16h45 avec Nadia Bernard Edaya pour la pièce Disgrâce au Théâtre Premier Acte jusqu'au 7 mai. Et à 17h, j'ai parlé avec Alex Tremblay-Lamarche pour sa chronique Histoire de lire. On se donne rendez-vous donc demain à 16h sur les ondes de Chiz 94.3 pour une autre émission de Chérie J'arrive. Et moi, d'ici là, je vous dis ben, à demain. Faites attention à vous autres et ciao!
Tous les jours, on en parle, mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Le 4 mai prochain, à l'Impérial Bell, plongez dans le rétro-futur avec Rétrofolia 2022.
pour cette 12e édition de Production culturelle, comité au baccalauréat en communication publique de l'Université Laval, venez découvrir plusieurs artisans de la ville de Québec et des prestations musicales. Voyez Lucille, Viceroy et Alex Berger. Faites vite, allez sur la billetterie de l'Impérial Belle et réservez votre place.
Grande soirée rock sur Saint-Joseph le 26 avril prochain. Plateau triple avec Zouz, Pudge et The Blaze Velluto Collection. Des 20h à l'Impérial Belle, assistez au matrock post-punk de Zouz, au Psyg Stoner Grunge de Pudge et Blaze Velluto Collection qui allie pop d'époque et folk scintillante. Les billets sont en vente à la billetterie impérialbelle.com. Zouz, Pudge, The Blaze Velluto Collection, le 26 avril prochain à l'Impérial Belle.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.